Le psaume que notre frère Mathieu a lu en introduction de notre culte de ce matin, de même que les deux derniers cantiques qui ont été chantés après le moment de prière, venez le célébrer, et Jésus, espoir des nations, sont une merveilleuse introduction au thème que nous allons étudier ce matin, celui de la reconnaissance, de la louange et de l'adoration que nous devons rendre à notre Dieu. Alors vous allez me dire, c'est un thème très généraliste, mais je ne vais pas, n'ayez crainte, rester sans ouvrir la parole de Dieu et un texte particulier qui m'a semblé tout à fait approprié pour montrer comment, à une époque de son pèlerinage, le peuple d'Israël a su être reconnaissant envers son Dieu, l'adorer et le louer, même si ce ne fut qu'un moment très particulier de l'histoire de ce peuple. Cela mérite d'être étudié et rappelé. Je vous invite donc à une lecture dans le livre de l'Exode, un passage bien connu, au chapitre 15, qui selon vos versions peut s'intituler « Cantique des rachetés », « Cantique de Moïse », « Cantique de louange ou de reconnaissance envers Dieu ». Nous lirons les versets 1 à 21. « Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées, les courants se sont dressés comme une muraille, les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins, les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer. Mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes vinrent auprès d'elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Un cantique, un chant de louange qui mérite sans aucun doute d'être découvert et étudié, qui retrace la manière à la fois simple mais grandiose des œuvres de l'Éternel à travers un événement qui a marqué l'histoire du peuple d'Israël, une délivrance extraordinaire, la délivrance d'un esclavage de 400 années en Égypte. Un petit rappel, 400 années pendant lesquelles Israël a été esclave, pas tout à fait 400 ans, parce que les premières années de la vie du peuple d'Israël sur cette terre d'Égypte ont été une bénédiction. Israël a été avec le pharaon qui a connu Joseph, qui a vu sa sagesse, qui a vu sa grandeur, qui a vu tous les miracles accomplis. Israël a été dans un territoire fertile, le pays de Goshen, le long du Nil. Mais une fois que ce pharaon est mort, les quelques 350 ans plus tard, la vie du peuple d'Israël fut loin d'être un long fleuve tranquille. Au contraire, un peuple maltraité, opprimé, puni, tué, pour beaucoup de ceux qui ne répondaient pas aux normes de travail à fournir. Mais Dieu avait promis, il avait promis à Abraham et à tous les patriarches que ce temps serait un temps d'épreuve, mais un temps où lui, l'Éternel, accorderait à un moment voulu, son heure, une délivrance extraordinaire. Et il a préparé la venue d'un libérateur pour ceux qui veulent retrouver l'histoire de tous ces événements. Relisez les premiers chapitres de l'Exode et vous en verrez la manière extraordinaire par laquelle Dieu a préparé son serviteur, l'a conduit alors qu'il ne voulait rien faire, qu'il n'avait pas les capacités selon lui pour en faire un libérateur, préfiguration bien sûr de ce que Jésus-Christ serait pour nous, le peuple, que Dieu nous a merveilleusement offert de pouvoir rejoindre en tant que peuple sauvé par Jésus. 10 plaies d'Égypte terribles, plus terribles les unes que les autres, qui ont finalement amené le pharaon à décider quoi ? De laisser partir Israël. Et là, au bord de la mer des roseaux, de la mer rouge, une délivrance extraordinaire que ce cantique rappelle. Et je dirais qu'à travers ce cantique, c'est la première expérience de foi qui nous est relatée là. La confiance, parce que la confiance c'est la foi, la confiance que le peuple va avoir en ce Dieu qui l'a magnifiquement délivré. Rappelez-vous que juste avant le passage de la mer Rouge, ce peuple était dans l'expectative, qu'est-ce qui va nous arriver ? Les Égyptiens sont là, la mer est là, que faire ? C'était la crainte. Ce cantique est, pour ma part, un cantique de délivrance. Et un cantique de délivrance, quand je l'ai relu, j'ai été surpris de voir que, dès le début, et un petit peu plus loin à la fin, ce cantique commence par Dieu et finit par Dieu. C'est vers lui que nous devons nous tourner, c'est vers lui que le peuple était amené à se tourner pour apporter louange, adoration, reconnaissance. C'est un petit peu ce que nous vivons lors de nos cultes dominicaux ici même. Mais c'est un cantique qui nous apprend aussi beaucoup de choses sur Dieu, sur la manière dont il agit, tant sur les puissances, les hommes, que sur les éléments, c'est-à-dire le vent, la mer, etc. La structure de ce passage, elle est relativement simple, sans grande surprise. 2 divisions que nous aborderons successivement. La première, ce que Dieu a fait pour Israël lors de la traversée de la mer Rouge. La deuxième, c'est tout l'espoir qui se dégage pour l'avenir de ce peuple Et vous remarquerez, en lisant la deuxième partie, à partir du verset 13, qu'un certain nombre de peuples sont évoqués, des peuples qui n'étaient pour beaucoup pas connus, et qui étaient déjà, dans le cantique de Moïse, vaincus par la renommée de ce que Dieu a fait au moment du passage de la mer Rouge. Enfin, en conclusion, nous verrons les enseignements pratiques que nous pouvons tirer pour nous, personnellement, de ce cantique. Victoire de Dieu sur la mer Rouge, versets 1 à 12. Quand on relit ces 12 premiers versets, la première constatation que l'on peut faire est que se dégage par la bouche de Moïse le triomphalisme et la grandeur de Dieu. Ce cantique proclame la puissance de Dieu, la gloire du Dieu d'Israël, mise en évidence par l'anéantissement de ce qui était connu à l'époque comme la plus puissante et la plus grande armée du monde connue de l'époque, les Égyptiens, avec ses chars, ses cavaliers, ses moyens faramineux que le pharaon avait mis à disposition de ses guerriers. On peut voir dès le début de ce passage que la puissance de Dieu est comme une garantie sur l'avenir. Ça va être un encouragement et aussi une raison de la foi de ce peuple. N'oublions pas qu'au moment où ce psaume est écrit, le peuple d'Israël, même s'il ne le sait pas encore, est au début d'un long périple de 40 années d'errance dans le désert, avec énormément de difficultés. Et vous me direz que même si vous lisez la fin de ce chapitre, à partir du verset 22, vous verrez que très vite, ça a été les récriminations, les réprobations envers Dieu. Et pourquoi ne sommes-nous pas restés en Égypte? Un peuple au début d'un long périple, d'une marche semée d'embûches, avant l'entrée en possession du pays promis. Ce qui est merveilleux, c'est que ce chant qui a été chanté par tout le peuple présente quand même dans les deux premiers versets une caractéristique. C'est qu'il est l'expression de la foi, de la confiance, de l'assurance de Moïse qui en a été sans aucun doute le compositeur. Vous remarquerez que les deux premiers versets, à la différence des autres, sont à la première personne du singulier. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Et puis, au verset 2, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Première expérience de Moïse. L'Éternel est un sauveur, un libérateur. Remarquons que même si ce cantique a été rédigé par Moïse, il a été repris par toute l'Assemblée, qui l'a fait sien en quelque sorte. Alors n'oublions pas que pour nous, dans cette Église comme ailleurs, quand nous nous retrouvons dans d'autres lieux de culte, si nous sommes appelés à louer Dieu dans l'Assemblée des fidèles, de manière collective, notre louange doit en premier lieu être individuel, traduire l'expression de notre reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait, nous y reviendrons. Ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour nous individuellement. Le Seigneur est mon salut. Et puis nous voyons en dehors du triomphalisme qui se dégage de ces versets, la puissance extraordinaire de Dieu, non seulement sur les éléments, mais sur les humains. Des choses qui dégagent et qui permettent de mieux percevoir la nature et le caractère même de Dieu. Un Dieu qui agit sur les éléments. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu d'études, les uns ou les autres, sur ce passage extraordinaire de la mer Rouge, qui nous est décrit comme un événement grandiose, c'est vrai, de la puissance de Dieu. Mais Dieu qui a utilisé des éléments tout à fait naturels, les forces de la nature qui sont entre ses mains, qu'il est lui-même et seul à pouvoir diriger, vaincre, modifier, selon son bon plaisir. Et Moïse remarque très très bien, quand il dit les paroles de ce cantique, que Dieu est un Dieu qui agit sur tous les éléments. Il a, verset 5, jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée, pardon, verset 4. Et verset 5, les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Un endroit qui n'était pas si profond que cela, ce passage de la mer des roseaux, mais terrible, parce que certainement aussi funeste pour ceux qui s'y aventurent, que lorsque vous vous trouvez dans un étang avec de la boue, de la vase, et que plus vous essayez d'avancer, et plus vous vous enfoncez. On voit encore l'action de Dieu sur les éléments quand il parle des vents. Et alors j'aime beaucoup la poésie qui se dégage des paroles de Moïse. Les vents sont comparés au souffle des narines de Dieu. La puissance qui se dégage de l'Éternel. Celui qui a figé les eaux comme un rempart pour permettre au peuple de passer, avant ensuite de refermer ses eaux sur les Égyptiens. Ces expressions poétiques montrent toutefois que Dieu est un Dieu extraordinaire, qui est capable de contrôler et de vaincre tous les éléments de la nature pour les diriger dans le sens même de sa volonté. Mais Dieu agit aussi sur les humains. Sur les humains, le peuple d'Israël ne voulait pas passer. Il avait peur. Peur d'aller dans l'inconnu. Peur devant cette mer qui lui semblait impossible de traverser. Et peur encore davantage en voyant cette armée égyptienne qui le poursuivait. N'oublions pas qu'à l'époque, je le disais tout à l'heure, la puissance de l'Égypte était redoutable. Et pourtant, Dieu a vaincu cette armée égyptienne. Voyez comment Dieu, en tant que vaillant héros, définit à travers les paroles de Moïse ses capacités. Capable d'anéantir ce peuple plein d'arrogance qui disait en lui-même « Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin ». Rappelez-vous que lorsque le peuple d'Israël a quitté le pays d'Égypte, il est parti avec des richesses importantes que les Égyptiens lui avaient laissées. De l'or, de l'argent, du bronze, de l'airain. Et ce peuple d'Égypte, poursuivant Israël, voulait récupérer tout ce qu'il avait perdu. Malgré la puissance de ce peuple, l'Éternel l'a précipité. Fait disparaître à tout jamais, enfoncé, nous dit le verset 10, comme du plomb au fond des eaux. Cette première partie du cantique se termine dans les versets 11 et 12 par une remarquable exaltation de la part de Moïse, qui est l'expression de sa foi, de sa reconnaissance, de la suprématie et de l'unique Dieu qui est le sien. Je relis. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Après cette éclatante victoire sur les ennemis, la grandeur et la beauté de Dieu sont rappelées par Moïse et reconnues par tous les Israélites. Qui est comme toi ? Mon Dieu, mon Sauveur. Cela rappelle le verset 2 que nous avons vu. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Rappelons-nous ce que Dieu avait dit à Moïse et que le Pharaon ne voulait absolument pas laisser partir. Vous verrez des prodiges en grand nombre et le Pharaon vous laissera partir. Là, les prodiges en grand nombre se sont accomplis et le prodige salvateur par excellence qui a anéanti toute l'armée d'Égypte vient d'avoir lieu. Et après la victoire sur les Égyptiens, ce cantique évoque aussi la victoire de Dieu sur les ennemis à venir dans les versets 13 à 21. Le peuple était sans aucun doute loin de s'attendre à vivre des temps difficiles après cette traversée de la mer des roseaux. mais il va y avoir bien des difficultés. Et la victoire finale, c'est-à-dire la prise de possession du pays de Canaan, ce pays promis à Abraham et à ses descendants, va s'accompagner là encore de miracles aussi extraordinaires les uns que les autres, pour que le peuple d'Israël puisse entrer en possession que l'Éternel a juré à Abraham, Isaac et Jacob de donner la possession, ce pays où coule le lait et le miel. Le verset 13 commence ainsi par un résumé de ce que Dieu va accomplir pour son peuple à cause de son amour infini pour lui. Dieu est un Dieu d'amour. Ce qu'il a réalisé là est une preuve de son amour, mais il en est de grand nombre que nous pouvons rappeler. Dieu va conduire ce peuple. Et je ne sais pas si vous avez fait attention quand ce psaume, ce cantique a été lu, de ce verset. Je te conduirai dans la demeure de ma sainteté. La demeure sainte. Cette demeure sainte, selon les différents commentateurs, peut faire appel à deux choses. Peut faire référence à la terre promise, qui est la terre sainte, la terre que Dieu avait préparée pour que son peuple en prenne possession et qu'il soit sur cette terre d'Israël, sur ce pays de Canaan, un exemple pour toutes les nations environnantes, un témoignage de la grandeur du Dieu d'Israël. Mais ce qui est clair, c'est que les versets 14 et suivants le montrent. L'événement que vient de vivre ce peuple va se répandre alentour, va être connu d'un grand nombre de nations ou de groupes de nations tout autour du futur État d'Israël de la terre de Canaan. Les versets 14 nous disent que partout, cette victoire va susciter la peur, la crainte. Et les noms de certaines nations, de certains peuples sont évoqués. Les Philistins, les Moabites, les Cananéens. Si vous relisez la suite de la prise de possession du peuple d'Israël de ce territoire de Canaan, vous verrez que ça n'a pas été tout le temps facile, qu'il y a eu beaucoup de guerres, beaucoup de difficultés, beaucoup de défaites même. La résistance de ces peuples, elle aura été tout aussi effective, tout aussi puissante que la résistance de Pharaon à laisser partir le peuple d'Israël. Mais ce cantique nous rappelle que la victoire finale est assurée. Quelle merveilleuse espérance dans la bouche de Moïse. Je sais qu'avec toi, je remporterai des victoires, nous remporterons la victoire. Même si les adversaires sont aussi redoutables que les Égyptiens. De telles perspectives ne pouvaient bien évidemment qu'encourager le peuple à aller de l'avant pour conquérir. Alors il y a la deuxième partie du cantique, on trouve dans la bouche de Moïse, inspirée par Dieu, de remarquables jeux de mots. Des images comparables à celles employées précédemment pour décrire la défaite des Égyptiens. Si les guerriers égyptiens avaient coulé comme une pierre, verset 5, ceux de Canaan, terrifiés à la vue d'Israël, seront comme pétrifiés, transformés en pierre, par la puissance même de Dieu. Les victoires à venir seront donc tout aussi spectaculaires, tout aussi extraordinaires, tout aussi miraculeuses que celles qui viennent d'avoir lieu. Et puis le verset 17, il témoigne de la confiance renouvelée du peuple envers son Dieu. Un peuple assuré, quand il aura franchi probablement le Jourdain, d'être conduit dans le pays et établi sur la montagne de son héritage. Un lieu préparé par Dieu pour que son peuple puisse l'adorer. Un sanctuaire. Alors le temple n'est pas évoqué. Peut-être que cette référence, que cette allusion fait allusion au temple qui sera construit plusieurs centaines d'années plus tard en l'honneur du Seigneur par Salomon. Ce qui est sûr, c'est que là, l'Éternel régnera sur son peuple pour toujours. Une promesse remplie de l'assurance que ce que Dieu a décidé s'accomplira. Alors Marie, prophétesse, sœur d'Aaron et Moïse, ont été là encore, à la fin de ce psaume, à reprendre ces versets, à reprendre ce cantique. Je pense qu'il y a là, vous allez me dire pourquoi j'insiste sur Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, parce que c'est une femme qui était âgée. Elle avait probablement entre 90 et 100 ans. Et c'est elle qui dirige toutes les femmes pour chanter ce cantique, pour reprendre ce cantique. Quelle merveilleuse expérience que de pouvoir, à la fin de nos vies, comme l'a fait Marie, exalter, adorer, louer Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Alors un enseignement, des enseignements pour nous aujourd'hui. Alors, d'une manière générale, je dirais que les récits de l'Ancien Testament ne sont pas faits pour nous abreuver ou nous ennuyer d'une foule de détails que nous pourrions juger sans importance. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner. Quand je dis que parfois des textes nous paraissent inutiles, je pense à ce que nous avons lu il n'y a pas très longtemps, le jeudi soir, des noms et des noms évoqués, ou aux généalogies que nous trouvons dans les Écritures. L'espoir que le peuple d'Israël a eu dans cette traversée de la mer Rouge, c'était un espoir pour la marche finale vers la terre promise. Pour nous, toute l'histoire du peuple d'Israël, depuis le début, depuis l'appel de Moïse à Ur en Chaldée, jusqu'à l'histoire à travers les patriarches, les prophètes, les rois, est là pour fournir à notre foi des faits historiques et nous rapporter les événements marquants que Dieu a fait vivre à son peuple. Ce n'est donc pas une compilation, l'Ancien Testament, de récits historiques. C'est un ensemble de livres inspirés par Dieu lui-même, destinés à nous conduire dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait. Et par rapport au peuple d'Israël, nous avons, nous, bien d'autres raisons, des raisons bien plus grandes, plus magnifiques encore, de louer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce libérateur qu'était Moïse pour le peuple d'Israël n'est qu'une préfiguration du grand libérateur, du Fils de Dieu lui-même que Dieu a envoyé, dont nous sommes, nous aujourd'hui, au XXIe siècle, témoins de tout ce qu'il a fait ici-bas, des miracles qu'il a accomplis, de ses œuvres grandioses pendant les 3 années de son ministère, mais plus encore, de son obéissance suprême qui l'a conduit à aller jusqu'à l'épreuve de la croix, pour mon péché, pour nos péchés. Le Fils unique de Dieu, envoyé dans le monde pour nous montrer au plus haut degré l'amour infini du Père, tout ce qu'il a voulu de toute éternité, révéler au monde le concernant. Pour nous, il suffit de croire qu'il est mort sur la croix. Mort sur la croix pour moi, pour nous, d'en faire mon sauveur personnel, mon Seigneur, celui que je veux suivre, louer, adorer, pour être assuré de vivre le temps que Dieu nous donnera de vivre ici-bas, dans sa présence, avec l'assurance que, quels que soient les événements que nous vivrons, il ne nous abandonnera pas. Même si les événements peuvent être comme les attentats que nous avons vécus, excessivement troublant et déprimant pour chacun de nous. Des épreuves, nous en aurons. Israël, délivré du pays d'Égypte, a vécu 40 années de souffrance, d'épreuves, de difficultés, de désir de retourner en arrière. Cela peut aussi nous arriver. Mais comme le dit l'apôtre Paul en Romains 5, je vous lis les versets 1 à 5, une partie, nous tirons même fierté de nos afflictions ou de nos détresses, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Encouragement pour nous, le peuple d'Israël était en passe de gagner le pays promis, de s'y établir. Quelle est notre espérance à nous en tant qu'enfants de Dieu? La cité céleste, la présence éternelle de Dieu. La vie dans cette Jérusalem céleste, totalement transformée. Relisez l'Apocalypse qui nous la décrit si bien. Une ville merveilleuse, dans laquelle Dieu nous attend, dans laquelle Dieu nous a préparé un festin. Bien plus grand encore que la description qui nous est faite dans Ésaïe, que Matthieu nous a lu tout à l'heure. Un festin qui n'aura ni commencement ni fin, qui durera pour l'éternité, avec tout ce qui va avec, louange, adoration, reconnaissance. Si le peuple a appris, le peuple d'Israël a appris à connaître Dieu en traversant les périodes difficiles de l'Égypte, du désert, du pays de Canaan, je suis persuadé que nous apprendrons aussi à connaître Dieu, peut-être plus intimement encore que le peuple d'Israël ne l'a fait, quand nous, au cours de notre vie, connaîtrons tant des moments de joie comme cette victoire sur les Égyptiens, victoire sur des ennemis de nos vies, que dans les moments de défaite, de tristesse ou de doute. Si Dieu n'a pas oublié son peuple pendant les 400 années d'Égypte, croyez-vous qu'il vous oubliera, qu'il nous oubliera, qu'il m'oubliera pendant les 90 ou 100 ans peut-être moins que Dieu me réserve ou qu'il nous réserve. Le cantique de Moïse nous rappelle enfin que notre vie, notre sécurité, notre avenir, notre espérance sont directement dépendants du caractère de Dieu. Caractère de Dieu, attribut de Dieu. Ce peuple a connu un Dieu qui était un Dieu lointain pour lui. Il n'a pas hésité. Quand Moïse ne redescendait pas du mont Sinaï, où les tables de la loi lui ont été données, à se tourner vers d'autres dieux. Mais ce cantique rappelle la grandeur, la bonté, et surtout un caractère extraordinaire de Dieu, sa fidélité. Dieu ne change pas. Relisez le psaume 105 qui vous rappelle tout ce que Dieu est à même de faire. Et si nous devions mémoriser une chose importante que la parole de Dieu nous invite régulièrement à faire, c'est à nous rappeler que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Malachie 3:6 tout d'abord. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Immuabilité, un caractère extraordinaire de Dieu. Et encore un texte beaucoup plus proche de nous, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Celui qui est notre Sauveur, Jésus-Christ, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Puisse Dieu lui-même, Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, et le Saint-Esprit nous donner de l'assurance, nous encourager. Notre vie ne sera pas plus facile que celle du peuple d'Égypte, mais qu'il puisse nous encourager en voyant tout ce qu'il fait dans nos vies, tout ce qu'il a réalisé jusqu'à aujourd'hui pour son peuple, Israël, pour tous ses enfants rachetés, nous donner de l'assurance, nous encourager à le louer, le célébrer et l'adorer encore. Et être comme ce peuple d'Israël après la traversée de la mer Rouge, à dire ces paroles, « Je chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire L'Éternel est le sujet de mes louanges. Il est ma force. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen.